Média éphémère où on médiatise l'événement par nous-mêmes. Donc voilà, bienvenue à Toulouse, bienvenue à l'ADA 5. On a décidé d'improviser un petit plateau TV avec deux habitants de Maison du Peuple. On a Renz de la Maison du Peuple de Nantes et Cilia de la Maison du Peuple de Toulouse. Donc on pense que c'est intéressant de parler des Maisons du Peuple un peu avec tout le monde pour parler dans le contexte de l'ADA, voilà, comment ça se conjoint. Cilia, est-ce que tu veux nous parler de la place de la Maison du Peuple dans l'organisation de l'Assemblée des Assemblées ?
Bah, du coup, dans le cas particulier de Toulouse, au début, on voulait accueillir l'ADA à la Maison du Peuple. Et en fait, on a rétro-pédalé parce qu'on s'est dit qu'une telle organisation, ça pouvait mettre en danger le projet de Maison du Peuple en tant que tel. Du coup, ça a été une ligne très différente que... C'est un Nazaire. Du coup, qui expliquera après comment ils ont fait. Et du coup, nous, on a préféré séparer les deux et aussi pour se donner les moyens d'accueillir un off à la Maison du Peuple, du coup, de Toulouse, et d'avoir un sas de décompression par rapport à l'ADA et à ce qui se passe ici. Du coup, peut-être je te laisse expliquer comment vous avez fait, du coup.
Pour ce qui est le lien avec l'ADA et les Maisons du Peuple, il y a un lien assez fort depuis le début. Commercy, qui a organisé la première Assemblée des Assemblées, nous a fait la demande, avant la première Assemblée, parce que moi je suis anciennement de la Maison du Peuple de Saint-Nazaire, voilà, je vais signaler, de nous présenter comme candidat pour organiser la seconde Assemblée des Assemblées. Parce que ils sont très favorables au principe de Maison du Peuple. Nous, quand on a organisé l'ADA à Saint-Nazaire, on a dû faire le sacrifice de notre maison, en sachant qu'on allait pas tarder à se faire expulser. Du coup, je comprends Toulouse qui a pas voulu l'organiser dans sa propre maison, parce que nous, on a sacrifié notre maison, c'est-à-dire on a pété tous les murs de notre maison. On a aussi mis notre mouvement en parenthèse, ça veut dire qu'on a réduit le nombre d'actions. On a vraiment mis le mouvement en parenthèse, qui s'en est ressenti à la fin de l'ADA. Qui a provoqué presque un éclatement du groupe en plusieurs groupes. Du coup, c'est pas forcément une erreur de pas le faire chez vous. Mais ça peut être fait bien. Après, le lien qu'il y a très fort entre l'ADA et les Maisons du Peuple, que ce soit organisé par à l'intérieur d'une Maison du Peuple ou pas, c'est la 5e ADA. La 2e a été organisée par la Maison du Peuple de Saint-Nazaire. La 4e a été organisée par Montpellier, qui a ouvert une Maison du Peuple à cette occasion-là. D'accord. Et la 5e est organisée par Toulouse, qui a une Maison du Peuple. Et à force de faire des ADA, on voit qu'il y a beaucoup de demandes d'informations sur comment ouvrir une Maison du Peuple. Les gens qui viennent à l'ADA sont très liés au projet Maison du Peuple.
Du coup, moi j'ai une question. C'est pourquoi est-ce que l'organisation du NADA se fait dans une Maison du Peuple ? Pourquoi une Maison du Peuple est propice à cette organisation collective ?
Bah, moi, ce que je vois, c'est que les Gilets jaunes, ils sont un peu en dehors des murs, et que pour organiser une assemblée des assemblées, il faut un lieu, il faut une logistique, il faut tout un aménagement, et que du coup, avec des autorisations, un certain nombre de normes, et que les maisons du peuple, c'est souvent des réquisitions, la plupart du temps, c'est des réquisitions ou des squats, et du coup, on a de la liberté sur ces marges-là, on n'a pas de compte à rendre, et donc ça permet de trouver cet espace de liberté, du coup... de faire ces choses, je dirais pas illégales, mais de sortir des murs et d'avoir cet espace-là, de pas du coup être en demande auprès d'institutions pour accueillir les lieux, de respecter des normes et de se réapproprier et le lieu et l'organisation, de se réapproprier toutes ces choses qui nous sont imposées au travers du lieu aussi.
Non, mais j'avais pas grand-chose à rajouter, outre que c'est le moyen aussi d'allier deux idées politiques assez proches, c'est-à-dire s'organiser démocratiquement à l'ADA. Si l'ADA peut propulser le principe de Maison du Peuple et inversement, c'est génial, quoi. Voilà.
D'accord. Et qu'est-ce qu'une Maison du Peuple gagne à organiser une ADA ? Est-ce qu'en s'organisant collectivement, on s'organise ensuite mieux dans la rue ? Est-ce qu'on arrive à fédérer un groupe avec l'organisation d'une ADA pour continuer d'organiser la lutte en local ? Parce que l'ADA, il y a des intentions qui sont plus que locales. C'est pour coordonner des groupes entre eux ou pour qu'il y ait beaucoup de rencontres. Mais en quoi ça... Juste sans parler de ce qui se passe à l'ADA et des trois jours qui viennent, qu'est-ce que nous, on a déjà gagné, en fait, juste avec cette ADA 5
Alors, nous, pour nous, dans notre situation, du coup, bon, même si l'ADA ne s'organise pas à la Maison du Peuple, la grande équipe de la Maison du Peuple a été très présente sur l'organisation et a vraiment soutenu que ça se fasse. Et moi, j'ai eu la sensation, et après, il faudra prendre du recul une fois que ce sera passé pour voir si c'est vraiment le cas, qu'effectivement, ça a soudé une équipe assez large, plus d'une vingtaine de personnes qui sont très différentes, qui sont sur des énergies très différentes autour d'un projet commun. Ça leur a fait faire des choses ensemble. Ils ont accueilli chez eux, là ici le off, pas l'ADA, mais malgré tout le off, ils accueillent des gens sur le projet qui se battent au quotidien pour faire. Et du coup, on a la nécessité de mettre un peu de côté les tensions pour accueillir ces gens-là, parce qu'on est fiers de ce qu'on fait, on est fiers du projet qu'on propose. Donc moi, c'est ce que je vois. Après, c'est vrai que je trouve que ça crée aussi des fragilités dans l'équipe. Parce que du coup, ça nous prend beaucoup de temps, donc on n'a plus forcément le temps de traiter les tensions. Alors ça permet d'arrêter de donner de l'importance à des tensions de merde, dont qu'on pourrait très bien s'en passer. Voilà. Du coup, j'ai l'impression que c'est un peu à double tranchant, et que si tout le monde y va d'une bonne volonté de « Ok, on y va ensemble pour tracer ça », ça peut fédérer.
Au niveau local, c'est assez compliqué. Nous, dans notre contexte, à Saint-Nazaire, ça a été assez compliqué, vu que pour nous, on l'a vu comme un sacrifice. Mais dès le départ, on a décidé d'accepter ce sacrifice pour que l'ADA continue et puisse perdurer, qu'on arrive à la cinquième. Nous, on a fait le sacrifice de notre maison pour ça. Mais après, ce qu'on a gagné, déjà à l'heure actuelle, nous, à la fin de l'Assemblée de Saint-Nazaire, il y a plus d'une vingtaine de tentatives de Maison du Peuple qui ont été faites à travers la France. Il y en a qui ont réussi, il y en a d'autres qui n'ont pas réussi. Suite à Montpellier, il y en a eu d'autres qui ont été faites. Et je suis sûr qu'après l'ADA de Toulouse, vu la belle énergie qu'il y a là et que ça a été organisé par la Maison du Peuple, ça va inspirer des gens à en ouvrir d'autres. Après, pour l'ADA, ça montre que il y a toujours des groupes solides qui sont capables d'organiser des ADA. Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va dans les deux sens. C'est autant bénéfique l'un que pour l'autre. Je pourrais pas te donner tous les bénéfices pour l'ADA parce que je suis assez fatigué aujourd'hui.
Du coup, je suis...
Juste une petite précision, histoire qu'il n'y ait pas de... L'ADA n'a pas été organisée que par l'équipe de la Maison du Peuple. Attention, il y a eu beaucoup de monde aussi derrière, histoire de... Il n'y a pas de souci, mais histoire que ce soit bien clair pour tout le monde.
C'est que le lieu de la Maison du Peuple a permis à 50 à 80 gilets jaunes de venir tous les dimanches pour organiser... voilà. Donc c'est un lieu d'occupation qui a permis l'organisation. Du coup, j'étais curieux d'entendre la distinction entre un squat qui a une organisation collective et une Maison du Peuple. Parce que tu dis, il y a une vingtaine de Maisons du Peuple qui ont ouvert. On ne peut sûrement pas quantifier le nombre de squats qui sont ouverts depuis le début du mouvement Gilets jaunes. Et comment on distingue du coup une Maison du Peuple d'un squat collectif?
Pour moi, c'est assez simple. Même si ce n'est pas le cas de tous les squats, une Maison du Peuple, on est un squat, on met des personnes à l'abri, mais avant tout, avant de mettre des personnes à l'abri, nous on est un projet politique. Nous on veut être une alternative à la société existante, d'accord ? C'est peut-être le cas d'autres squats, mais nous on a des activités militantes régulières, on organise des actions militantes régulièrement, on accueille plein de militants divers et variés pour s'organiser chez nous. On essaie de créer une convergence de lutte, c'est vraiment un des points importants de la Maison du Peuple. Derrière, vu qu'on n'attend plus rien du système, on essaie de répondre aux problématiques du système. Nous, par exemple, à Nantes, il y a une grosse problématique de migration et de personnes à la rue. Du coup, notre Maison du Peuple à nous, c'est un centre social autogéré. On accueille plus d'une soixantaine de personnes à la rue. On essaie de résoudre les problématiques locales, en fait. On n'est pas centré sur notre nombril comme un squat ou comme d'autres lieux de lutte, je vais dire la ZAD parce que je la connais. On n'est pas auto-centré sur nous-mêmes, en fait. On essaie d'être utile à la population locale. Je pense que c'est vraiment ça qui définit une Maison du Peuple.
Moi, je connais pas trop assez les milieux squat, mais je sais que nous, quand on a ouvert à Toulouse, c'était vraiment dans cet objectif d'avoir un lieu pour les Gilets jaunes et par les Gilets jaunes et de vraiment rendre accessible toute une partie de la population qui se politisait pour la première fois. L'autogestion, qu'on a aussi découvert du coup nous les habitants avec eux sur plein de trucs, même si on avait un peu d'expérience, mais d'expérience sur court terme quoi, pas en termes d'habitation. Et je dirais que c'est vraiment, effectivement, donc, nous aussi on parle un peu de centre social autogéré. Nous on a été beaucoup moins sur de l'hébergement, Il se trouve que de fait, des gens sont venus se zinguer au projet et se sont mis à habiter sur place. Mais dans un premier temps, on n'a pas voulu être un squat d'hébergement, mais vraiment un squat d'activité culturelle, politique, que toute initiative Gilets jaunes, si c'était possible, puisse trouver une place, avoir une salle, organiser son événement, même si nous, par exemple, en tant qu'habitants, on n'est pas forcément d'accord. Donc, par exemple, typiquement, on a été OK sur les premières maisons du peuple, autant d'accueillir des AG que des AC, alors qu'il y a des gros, gros conflits entre les deux organisations. Nous, c'est OK, tant que c'est un truc Gilets jaunes, tant qu'il y a cette volonté, justement, de recréer le système, de s'émanciper, de tester des choses et d'expérimenter tous ensemble. Bon, après, je connais pas assez les autres milieux squat, mais vraiment au service d'un mouvement social qui essaye de remettre en question le pouvoir et le système dans lequel on vit et qui essaye de se donner les moyens et qui expérimente. Moi, je le vois aussi un petit peu comme l'ADA. Du coup, on nous demandait le lien entre Maison du Peuple et ADA. C'est un laboratoire, on expérimente des modes de vivre ensemble, on réexpérimente comment on s'organise, on teste. Il n'y a pas de bonne version de fait. Je sais que vous hébergez beaucoup plus, il y a beaucoup plus de migrants qui sont chez vous. Nous, on a vraiment bloqué, il y en a quelques-uns, les gens sont venus se zinguer au fur et à mesure et on prend un petit peu de temps avant d'héberger et on voit la force des deux en fait. Du coup, c'est d'expérimenter et moi j'encourage vraiment. Nous, on a ouvert grâce à Saint-Nazaire, effectivement, parce qu'il y a des mandatés qui sont montés à Saint-Nazaire et qui ont dit mais c'est génial, mais il nous faut ça à Toulouse. Du coup, on a dit vas-y, feu. Et du coup, j'encourage vraiment les villes à se lancer dans cette aventure-là. C'est un truc de ouf, quoi.
Bah, juste pour dire que je mets personne en concurrence. Chaque maison du peuple est différente et c'est ça l'intérêt. D'accord. Nous on fait de l'hébergement, mais on dit pas que c'est mieux. Juste que c'est vraiment important que chaque maison du peuple soit différente et fasse ses propres expériences. Après, nous on essaie de mettre en place un réseau de maisons du peuple parce qu'on a quand même des points communs et beaucoup beaucoup de points communs, même s'il y a des divergences. Mais on sera se coordonner sur ce qui nous rassemble afin de s'organiser collectivement au niveau national. Comme l'ADA d'ailleurs.
Moi, ce que je trouve extraordinaire avec la prise des ronds-points et l'occupation des ronds-points, c'est que les ronds-points, ils sont vraiment dans l'infrastructure. C'est-à-dire que quand tu prends ta voiture pour aller au travail, tu passes et tu vois les cabanes, tu vois les gilets jaunes. Du coup, tu vas avoir tendance à t'arrêter et tu vas faire des rencontres. Et du coup, est-ce que la Maison du Peuple, c'est pas s'invisibiliser ? Qu'est-ce qu'il faut choisir comme bâtiment pour aussi retrouver ce truc d'être dans l'infrastructure, d'être visible ? Comment on fait pour être vu et pour être dans la vie au quotidien des gens dans une maison du peuple?
C'est vrai que nous, on s'est pas mal posé la question parce que la première maison du peuple qui a été ouverte, elle était juste à côté, genre à peut-être 2 minutes en voiture d'un des gros ronds-points aux alentours de Toulouse. Et nous, il y avait vraiment la volonté d'être base arrière des ronds-points, d'offrir peut-être un petit peu du confort qui manque sur les ronds-points parce que c'est en plein vent, parce qu'il y a du bruit, de pouvoir stocker du matos un peu plus en sécurité. Et c'est vrai qu'on n'a pas voulu prendre la place. Après, les ronds-points ont un peu été lâchés, je pense, à cause de la fatigue, quoi. Enfin, nous, à cause de la fatigue, à cause de trop de tensions. Mais en fait, moi, je pense vraiment que c'est l'occupation des ronds-points. En tout cas, moi, à Toulouse, c'est cette sensation-là. L'occupation des ronds-points a permis l'émergence de maisons du peuple matures. Par exemple, la question de l'alcool. Sur les ronds-points, il y a eu beaucoup de problèmes d'alcool. Quand nous, on a ouvert la première maison du peuple, on a dit l'alcool, vraiment tranquille, tout le monde était OK. Même ceux qui picolaient, ils étaient OK en mode, ici, ce sera tranquille. Et sur la question de la... Moi, je pense qu'effectivement, il y a un risque de s'enfermer sur soi, surtout dans le milieu squat en plus, hein, pour le coup, de s'enfermer, de plus laisser trop rentrer des gens et tout ça, alors que nous, on veut au maximum ouvrir, on veut qu'il y ait au maximum de monde qui vienne. Et du coup, moi, je pense affichage extérieur et... Nous, on a fait très attention à communiquer, à être très présent sur les réseaux pour que les gens puissent venir, à se déplacer dans les AG, dans les réunions pour dire, OK, s'il y a des gens qui s'organisent, qui ont besoin d'une salle, qui ont besoin d'un endroit, nous, on est là. Et on est vraiment une ressource à mettre au service du mouvement si vous nous aidez à respecter le cadre et à autogérer le lieu. Mais je pense que c'est différent des ronds-points, quoi. C'est deux choses. Il ne faut pas que les deux se remplacent. C'est vraiment deux choses différentes qui doivent se mettre l'une au service de l'autre.
Nous, par exemple, à Saint-Nazaire, la Maison du Peuple a été créée à l'origine pour être une base arrière des ronds-points. C'était censé être ça. Nous, on a commencé par faire du ravitaillement parce qu'à Saint-Nazaire, on bloquait beaucoup la raffinerie de Donge. Tous les matins, on essayait, on se faisait déloger tous les jours, mais tous les matins, on y était. D'où la couleur de mon gilet, d'ailleurs. Ensuite, je pense qu'au début du mouvement, on avait un besoin de reconnaissance et d'être vu, d'où les ronds-points. Parce qu'on avait vraiment une rage à crier qu'il fallait que tout le monde entende. Donc les ronds-points s'imposaient. Mais tenir un rond-point, autant une maison du peuple c'est dur à tenir, et c'est éreintant et énergivore. Mais moi qui ai vécu sur un rond-point, c'est pire. Je te dis, c'est bien, mais c'est énergivore. C'est vraiment difficile à gérer un rond-point. Et je pense que c'était une étape du mouvement. Nous, on pense que les maisons du peuple, c'est la suite du mouvement. Ça peut être complémentaire avec des villes qui ont encore des ronds-points, mais nous, on pense que c'est vraiment la suite. C'est-à-dire, c'est la pérennisation du mouvement. Nous, on n'a plus besoin forcément d'être... On a besoin d'être vus, d'accord ? Mais on a des lieux où on fait tout pour que tout le monde sache qu'on soit là. On a besoin de lieux stables, de quartiers généraux pour pouvoir s'organiser. Et pour être connu à la population, nous, on tracte à droite, à gauche. On essaie d'organiser des concerts. Par exemple, là, nous, le 9 mars, il y a une exposition qui commence chez nous. Il y a une trentaine de graffeurs à travers la France, assez connus, qui sont venus repeindre notre maison gratuitement. Et du coup, on a une expo pendant un mois là pour faire venir un masse monde qui connaissent la maison. On essaie de créer des événements pour nous faire connaître. Mais nous, on pense vraiment qu'on a besoin d'un lieu dur pour pérenniser dans la durée, quoi. Parce qu'on va s'éreinter à rester sur des ronds-points, c'est dur. Voilà. Après, courage à ceux qui sont encore sur des ronds-points. Voilà, respect.
Moi, je t'encourage vivement que l'objectif, ça soit de pérenniser des lieux ou mérenniser les lieux, comme on dit chez nous.
On est très masculin, désolé.
Et du coup, comment faire déjà ? Ce sera la première question. Et je suppose que ton objectif de mettre ces maisons en réseau, ça sert aussi l'objectif de mérenniser un lieu. Est-ce que tu veux nous parler de stratégie ?
Parce que nous, on est en train de lancer, mais on est plus jeunes. Donc on lance des stratégies, on est encore à tâtonner. Et du coup, moi, je pense que c'est important de la précarité. Il va falloir y échapper, je pense, à un moment, si on veut durer.
Après, il y a plusieurs axes de défense pour mérenniser le lieu. D'accord ? Si on essaie de créer un réseau, c'est que pour partager nos expériences, là, je vais t'éclater le petit beurre. Désolé. Il m'a troublé.
Il y a son collègue qui lui jette des bouts de papier sur
ouais,
la tête.
Désolé, c'est ça les Nantais. C'était pour dire que oui, on essaie de créer un réseau pour justement qu'on arrive à partager nos expériences sur toutes les stratégies, que ce soit de lutte ou de défense. Nous, à Nantes, on a choisi... on a d'abord suivi la voie juridique qui nous a apporté un peu de délai, mais on a surtout mis la pression sur le propriétaire qui est le diocèse. L'église, ce qui nous a amené à force de mettre la pression à l'église médiatiquement et publiquement à signer un bail précaire, ce qui fait que maintenant on est à peu près stable, le propriétaire paye l'électricité et l'eau, c'est une variante qui peut se faire, tu vois, on a une assurance sur notre maison payée par le diocèse, d'accord. Ouais. Là on est en train de négocier pour rester tout l'été plus longtemps que la décision de justice, d'accord. Ça va se faire parce qu'ils ont des travaux qui ne sont pas prêts de commencer et ils ont peur que les bâtiments soient réinvestis par d'autres pauvres après nous. Et ils préfèrent que ce soit géré par nous parce qu'on fait du bon travail, quoi, tout simplement. Mais le fait de mettre ça collectivement, c'est vraiment ça. C'est vraiment collecter nos ressources parce qu'il y a vraiment beaucoup de manières, quoi, tu vois. Et aussi apporter de l'aide. Ça, c'est sur un voir parce qu'il y a des gens de Toulouse, de la Maison du Peuple de Toulouse, qui sont motivés là-dedans, de la Maison du Peuple de Montpellier, à créer une cellule d'aide à l'ouverture des Maisons du Peuple. Moi, on a fait un petit fascicule à Nantes. On a fait un petit fascicule d'aide à Nantes qu'on distribue. On a fait un petit fascicule d'aide à Nantes qu'on distribue. Dedans, on a essayé de compiler un peu des conseils. On va l'étoffer en prenant les conseils de Toulouse quand ils auront un peu le temps de nous les donner et des autres maisons. Ça, c'est un petit calendrier qu'on a fait pour sponsoriser la maison et nos activités. Voilà. Il est commandable à la Maison du Peuple, sur le site de la Maison du Peuple, sans souci. Voilà, on est au mois de mars, mais bon, c'est comme ça. voilà.
Donc, nous, à la Maison du Peuple de Toulouse, c'est les anciens locaux d'Airbus. Donc voilà, c'est un bâtiment qui a été construit que pour être loué à Airbus. Et Airbus a décidé que c'était trop cher. Du coup, il a abandonné. Ils veulent le démolir pour reconstruire autre chose, encore pour spéculer sur l'immobilier. Du coup, ne nous expulser après la trêve hivernale le 1er avril, c'est une injustice incroyable parce que le projet de démolition, il va encore mettre longtemps. Le temps de relancer un autre projet derrière, enfin, j'y crois pas. Du coup, c'est évident, on est légitime à rester. Mais comment ça se fait qu'on va quand même être expulsé? Comment est-ce que stratégiquement, on peut...
Après, moi, ce que je vois de la difficulté, nous, d'une difficulté qu'on a, c'est que les propriétaires, c'est des SCI basés à Paris. Et du coup, des gens qui, clairement, qui est des SDF logés dedans, ils s'en tamponnent la babouche, mais vraiment, ils en ont rien à foutre. Du coup, nous, les stratégies qu'on a commencé à aborder, c'est la voie juridique aussi, et mettre la pression sur ce que tu nous as conseillé. Mais du coup, tu vas mieux l'expliquer.
Moi, c'est ma troisième maison du peuple que j'ouvre. D'accord. Enfin, que j'ouvre, non. J'étais à la maison du peuple de Saint-Nazaire. C'est pas moi qui l'ai ouvert. Respect pour ceux qui l'ont fait. Je suis arrivé une semaine après. mais c'est la troisième maison du peuple que je fais. Et on a eu à peu près les mêmes stratégies de défense dans les trois. C'est-à-dire que, que ce soit l'État ou les propriétaires, tout le monde fait tout pour nous invisibiliser. En fait, tant qu'on n'existe pas, ils vont nous mettre sous le tapis parce que, en vrai, ils en ont rien à foutre de notre violon. En fait, qu'on soit dans la merde, qu'on soit d'utilité sociale, eux, ils en ont rien à foutre. C'est leur sous qui les intéresse. Nous par exemple pour Saint-Nazaire, c'était le groupe Pichet, 7e groupe immobilier de France. Nous on a joué la menace parce que c'était un moment fort du mouvement, on était un groupe très fort et on l'a clairement menacé, tu vois, je te le dis honnêtement, on a menacé son entreprise, son chantier, d'accord, et il a flippé, il nous a laissé des délais. Pour ce qui est du cas de Nantes et de la Providence, ça s'est pas fait comme je t'ai dit aussi magiquement que je t'ai raconté il y a 2 minutes. Parce que tout le monde a fait tout pour pas nous écouter, en sachant que le propriétaire du bien, c'est une société qui s'appelle la Providence, qui elle est gestionnaire des biens. Mais en vrai, nous on savait que c'est l'évêque de Nantes qui a tout pouvoir sur le bâtiment. Comme à Toulouse, tu vois, même si les propriétaires de ces bâtiments sont des entreprises qui basées je sais pas où, qui veulent rien entendre de vous, on sait très bien que le vrai propriétaire de ces bâtiments et pour qui ils ont été construits, c'est pour Airbus. Donc, il faut attaquer les vrais décisionnaires qui peuvent avoir du poids. Parce que demain, si Airbus décide d'appeler son sous-traitant pour lui dire de laisser le bâtiment à disposition des Gilets jaunes, le sous-traitant le fera sans en discuter. D'accord ? Parce que nous, c'est ce qui s'est passé. À force de traiter l'évêque de Nantes d'inhumain, alors qu'il faisait des propagandes sur l'aide aux pauvres partout, nous, on l'a mis devant ses contradictions. Et c'est ses propres ouailles, c'est-à-dire les gens de l'église. Moi, je suis allé tracter devant les églises. On a bloqué. Ouais, j'ai tracté devant les églises tous les dimanches. On a bloqué le diocèse. On a bloqué le truc du diocèse pour jusqu'à temps qu'ils nous reconnaissent. Et c'est de l'intérieur que c'est venu. C'est-à-dire, c'est des gens de sa propre de l'église qui l'ont mis face à ses responsabilités, et qui l'ont forcé. D'accord. Après, il y a toujours là parce que c'est l'église et qu'il y a le côté aide aux pauvres. Mais pour ce qui est des propriétaires capitalistes, il faut égratigner leur image. Si on arrive à égratigner leur image et qu'ils passent pour des gens sans cœur auprès de la population nationale, c'est pas leur intérêt. Ça fait chuter du chiffre d'affaires. Ils aiment bien passer pour des gentils. Et quitte à te laisser un bâtiment qui ne serve pas pendant quelques mois, ça les dérangera pas à mon avis. Moi, pour moi, c'est l'option d'attaque qu'on a vue la meilleure. Mais après, ça reste que celle qu'on a vue. On n'a pas tous les points de vue.
Donc ouais, moi je voulais vous inviter pour discuter des maisons du peuple parce que je pense qu'à la fin de cet ADA, j'espère qu'il y aura des nouvelles perspectives, qu'on va rencontrer d'autres maisons du peuple qu'on ne savait pas qui existaient. Mais je me suis dit, ce serait bien de prendre un temps, parce que je vous connais déjà, pour voir si notre discours change en début d'ADA et en fin d'ADA, ou s'il y a des nouveautés. Et nous on n'a pas à Toulouse, la Maison du Peuple n'a pas encore essayé des techniques de pression ou de menace, mais on essaie de toucher l'opinion publique, donc les Airbusiens, on leur donne des tracts, les invitants, il y en a qui viennent, il y en a qui profitent du lieu. Du coup, ça c'est assez agréable de voir qu'ils se retrouvent aussi, en fait, dans une occupation gilet jaune.
Ouais, ça c'est intéressant parce qu'on a fait un taf pour gagner l'opinion effectivement d'Airbus autour. Notamment quand à Toulouse il y a eu un incendie dans un squat de réfugiés, genre on est le plus gros squat de réfugiés, genre 500 personnes. On a fait appel aux dons Et du coup, avec des grandes affiches, et du coup, les Herbusiens eux-mêmes, du coup, ont été touchés sur la corde sensible et sont venus déposer des vêtements, des couvertures, des trucs comme ça. Et du coup, se sont arrêtés. Et parmi les Herbusiens, bah, y a aussi de l'écolo bobo, par exemple, qui du coup est intéressé par. Bah, nous, on fait des toilettes sèches, ça nous arrive d'en faire. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui se passent. Et le truc, c'est que bah, on manque de temps, quoi. Il y a tellement à faire, je pense que ça c'est un des points communs entre les maisons du peuple. On est débordés en permanence et du coup genre on aurait voulu faire ça beaucoup plus tôt pour avoir le soutien de la population locale beaucoup plus tôt, pour que si jamais il y a pression, bah, les gens ils puissent dire non mais attendez, nous on est content de venir entre midi et deux pour discuter avec eux, on est content de ce qui se passe. Je pense qu'on a manqué de temps, mais c'est un truc, au moins ça on l'a réussi quoi. Pour la prochaine fois on le saura.
Pour ce qui est du manque de temps, je sais que ça c'est vrai pour tout le monde. Mais après, même si des gens ont ouvert une maison du peuple, et même vous, tout le travail que vous avez fait, nous, c'est la deuxième maison du peuple de Nantes, et je t'avoue qu'on a été très déçus quand on a été expulsés de la première, mais tout le travail qu'on avait fait dans la première pour nous faire reconnaître socialement et de notre utilité publique dans la ville a porté ses fruits à la deuxième. Parce que nous, c'est vraiment tout le travail qu'on avait fait à la première et qu'on a continué à la deuxième, d'accord, qui a fait qu'on a pu garder le deuxième bâtiment. S'il n'y avait pas eu la première maison dont on s'était fait expulser, on n'aurait jamais pu garder la deuxième. C'est vraiment que maintenant, on est assez reconnu sur Nantes d'être utilité sociale. D'où, par rapport à notre hébergement, on est le seul lieu d'accueil ouvert sur Nantes en ce moment. Il y a le 115 qui nous envoie des gens, la CIMAD, Médecins du Monde. Nous, on travaille avec toutes les associations d'aide aux personnes à la rue. On fait partie d'un collectif qui s'appelle Personnes à la rue, d'ailleurs, avec plein d'associations. Et nous, personne ne peut remettre en cause notre utilité sociale sur Nantes. On commence à se faire un nom. Et ça va se faire sur long terme. Et même si on se fait expulser de celui-là, on en trouvera un autre jusqu'à temps que la mairie nous donne un bâtiment. Nous, ce qu'on veut, c'est que la mairie nous donne un bâtiment. Et on sait que la mairie a le pouvoir de le faire suite à la loi des réquisitions des bâtiments vides. Voilà. Nous, on essaie de pousser les mairies à prendre leurs responsabilités parce qu'à chaque fois, c'est le même problème. La mairie se renvoie à l'État et l'État le renvoie à la commune. Du coup, nous, on bosse vraiment là-dessus sur pousser la mairie à prendre ses responsabilités. Voilà.
J'aime beaucoup ces perspectives parce que c'est vrai que je veux pas que les maisons du peuple dépendent de l'opinion d'un juge ou la décision arbitraire. En fait, ça devrait reposer sur l'opinion publique. Et c'est vrai que nous, à Toulouse, on demande un soutien parce qu'il y a l'expulsion qui tarde le 1er avril. Du coup, je vous invite tous à venir à la maison du peuple de Toulouse, à nos réunions du jeudi soir, où là, on discute de stratégie. Et collectivement, on est généralement une trentaine, et tout le monde va prendre la parole. On fait un grand tour de parole. D'abord, on parle de pourquoi on veut garder la maison du peuple, qu'est-ce qu'on veut y voir, qu'est-ce qu'on.
Et tout ce qu'il faut faire, parce que la liste des choses à faire, elle est grande comme as. Moi, je suis rassurée d'entendre que tout le taf qu'on fait là, même si on n'arrive pas à garder le lieu, il ne servira pas à rien derrière, parce que c'est des réflexes. Effectivement, je me dis qu'on sera peut-être plus rapide. Mais genre, il y a plein de choses à faire. Je te laisse continuer, mais il y a plein de trucs à faire.
Et un truc qu'on a fait à la maison du peuple de Toulouse, c'est le Fouquet des Gilets jaunes. Donc on a décidé que tous les dimanches soirs, on organiserait un grand repas solidaire complètement à ou. Et donc en fait, on fait de la récup. Du coup, on va chercher, on connaît les marchés, on sait où récupérer des légumes. Et avec ça, on fait un grand repas et on nourrit des fois jusqu'à une centaine de personnes les dimanches. Donc ça demande toute une équipe de cuisine, mais qui doit se renouveler. Et il faut que ça change, il faut que ça tourne. Et ça fait vraiment vivre le lieu. Et des fois, on a eu des semaines où c'était comme ça tous les jours. Voilà.
Moi, je trouve que c'est l'intérêt que les maisons du peuple soient différentes. Et que c'est pour ça que j'essaie de créer un réseau entre les maisons du peuple. Parce que c'est pour s'inspirer les uns des autres. Parce que nous, vraiment, la maison du peuple de Nantes, tous les copains qui sont descendus, on va vraiment s'inspirer de votre organisation de la maison. Parce que là-dessus, vous avez beaucoup d'avance sur nous, sur le côté convivial et bien organisé de la maison. Ça, il faut le dire. Même si nous, on a d'avance sur d'autres sujets. Parce que voilà. Mais c'est bien de s'inspirer des uns des autres. Et à force de bouger de la maison, on a tous, toutes les maisons du peuple ont des trucs qui sont en avance par rapport aux autres. Et il faut vraiment s'inspirer des différentes maisons, quoi. Nous, il y a la cuisine chez vous, c'est un truc qu'on va beaucoup s'inspirer.
Après, je pense que c'est aussi une question de cadre général. Nous, là où il y a eu des points de tension aussi, c'est au niveau du cadre que tu poses, tu vois, où tu veux être dans de l'autogestion, mais tu sais que si tu es dans de l'autogestion totale, en fait, où tu n'imposes pas de cadre et où c'est les gens qui doivent trouver le cadre, mais en fait, ça peut partir en live très vite. Du coup, il y a plein de gens qui viennent se zinguer, en fait, qui viennent juste comme à l'hôtel. Et du coup, moi, j'ai l'impression que cette convivialité, elle est aussi partie de, à la base, nous, on a été plutôt sur une ligne de, on a posé un cadre assez serré. Et puis, petit à petit, on a lâché du lest. Le temps que des gens de confiance arrivent, s'intègrent, repèrent les trucs. Et du coup, petit à petit, on a arrêté de mettre nos nez dans plein de questions. Où on s'est dit, ok, bah, on vous fait confiance, vous gérez comme vous avez envie de le gérer. Et du coup, de permettre que ça se fasse petit à petit et qu'il n'y ait pas d'un coup plein de gens qui arrivent en mode, vas-y, on prend les trucs, on prend les espaces, on s'installe, on fait comme on a envie de faire. C'est ça l'autogestion. On a eu toute une période où, genre, dès que quelqu'un posait une question, les gens lui disaient, bah, c'est autogestion. Du coup, les initiatives allaient en contradiction, machin, et du coup, genre, de cadrer pour que. Ben, les gens puissent réussir à trouver une place de manière un petit peu sécurisée et puissent réussir à prendre les initiatives. Enfin, je sais pas comment, moi je dis pas que vous faites autrement chez vous ou quoi, mais. Ouais.
En fait, on a comme. C'est question de temps, comme tu as dit tout à l'heure. Il y a tellement de trucs à faire dans une maison du peuple qu'on peut pas consacrer du temps à tout. Vous avez consacré beaucoup de temps à l'organisation. Nous, on a passé tout notre temps à la défense. Je t'avoue, c'est vraiment notre. On a passé beaucoup, beaucoup de temps à se défendre. Et à organiser des actions aussi, bien entendu. Mais toute notre, on a vraiment cherché à pérenniser le lieu. C'était vraiment notre objectif primaire, toi. Et on s'est dit qu'ensuite, on la rendrait plus belle, la maison. C'est juste qu'on n'a pas mis nos priorités au même endroit. Voilà.
Chaque chose en son temps. Nous, on est en train de la repeindre. Voilà. On aurait pu faire ça bien plus tôt, mais voilà, on fait les choses dans le désordre. Moi, j'ai plus trop de questions. Vous pouvez me poser des questions aussi. Hein.
Je t'avoue qu'on est un peu fatigué.
Ouais.
Voilà, moi, je suis content d'avoir pu passer mon message.
Je suis content d'avoir pu passer mon message pour les Maisons du Peuple. D'ailleurs, si des gens écoutent et qu'ils ont besoin de conseils pour l'ouverture de Maisons du Peuple, n'hésitez pas à contacter la Maison du Peuple de Nantes ou de Toulouse. D'accord ? On essaie de, comme j'ai dit, de créer une équipe d'aide à l'ouverture. C'est-à-dire que ce soit Nantes ou même Toulouse, il y a des gens qui seront motivés à bouger suivant nos moyens, si ce n'est pas en Corse. Parce que là, aujourd'hui, j'ai une demande d'aide en Corse. Ça va être compliqué d'y aller, je l'avoue. Mais on est prêt à bouger assez loin pour, même physiquement, moi je suis prêt à venir, même les copains, pour venir vous aider à l'ouvrir, le bâtiment. On va vous aider d'abord de loin à faire le travail en amont nécessaire à l'ouverture de la maison. Mais s'il faut venir au moment de l'ouverture, on viendra sans problème. Voilà.
Et à Toulouse, avec la Maison du Peuple, on fait notre communication voilà, sur Facebook. On a une page qui s'appelle la Maison du Peuple de Toulouse et alentour. Et vous pouvez nous envoyer des messages et des propositions de publication. Vous pouvez proposer des événements organisés à la Maison du Peuple. Vous avez juste un message et vous nous envoyez une photo, la description de l'événement et le titre. L'horaire et la date, on s'arrangera. Faudra venir à notre réunion publique et voilà, c'est ouvert à tous. Et si plus tard on a d'autres outils que Facebook, on verra. Mais pour l'instant, c'est l'outil qui fédère parce qu'on peut co-organiser les événements avec la page Gilets jaunes Toulouse où il y a beaucoup de gens qui suivent dans l'actualité les événements proposés par cette page. Ce qui fait qu'on voilà, on a beaucoup de Gilets jaunes qui passent de manière constante.
Bah, vu que tu mets la question de Facebook sur le dossier, nous aussi on utilise Facebook, mais il va falloir trouver une autre solution que Facebook assez rapidement. Parce que je vais te donner un exemple, nous on a un groupe sur Nantes qui s'appelle Nantes Révoltée, c'est des copains, et ils viennent de se faire striker leur site Facebook avec je sais pas combien d'abonnés, du coup ils ont dû ouvrir un site internet. Où ils reprennent tout de zéro. Et c'est le cas de plein de groupes. Nous, on a plein de groupes de militants qu'on connaît à travers la France qui se font supprimer leurs pages Facebook et YouTube. Parce que l'État fait tout pour nous censurer. Et que pour l'instant, on peut encore utiliser ces outils, mais il va falloir vraiment penser à changer d'outil de communication parce que ça va devenir urgent. Tu vois, comme créer des ADA TV comme on a fait là, il va falloir le faire sur les réseaux sociaux aussi.
Moi, j'ai changé de sujet parce que du coup, donc l'animateur qui était là, en fait, parle à ma place. Demain, c'est la Journée internationale des droits de la femme. Maison du Peuple, ADA, Journée internationale des droits de la femme. Moi, par exemple, je suis la seule meuf dans l'équipe. Et du coup, il faut se battre au quotidien, en fait, pour que l'intimité soit respectée. Je pense que c'est Les deux copines que vous avez, elles me disent que c'est galère, quoi. Faut taper sur les doigts. Donc, vraiment, s'il y a des équipes qui sont motivées, moi, pareil, avec grand plaisir, discuter de ça. Parce que le milieu squat, c'est aussi ça, c'est défendre un terre-terre, défendre un territoire. Mais du coup, on redevient un peu primaire. Donc, par exemple, c'est défendre sa chambre, parce que sinon, il y en a qui viennent y squatter. Et du coup, quand t'es la seule meuf, ben, t'es en mode, si j'ai pas un binôme à côté de moi pour me défendre, c'est galère. Donc, en fait, j'ai pas vraiment d'autonomie, j'ai pas vraiment d'indépendance. Très vite, tu disparais dans le décor, même si on est bien content que tu prennes toute la charge mentale. Voilà, c'est mon petit coup de gueule, hein, parce que, voilà. Du coup, genre, vraiment big up. Par contre, les meufs, il y a vraiment des trucs de ouf à faire dans ces lieux-là. Il y a vraiment des espaces de liberté de malade, en fait, où on peut vraiment faire des projets de ouf et lancer des dynamiques. Nous, par exemple, il y a vraiment pas mal de meufs qui se sont fédérées autour du truc. On a tout un étage de non-mixité, du coup, pour héberger des nanas qui sont en galère, des femmes seules qui, du coup, bah, galèrent aussi à élever leurs gosses. Enfin, y a plein de trucs comme ça. On a eu des cas d'harcèlement, on a eu des cas d'agression. Et en fait, petit à petit, bah, les meufs, elles se mettent à parler, alors qu'avant, elles restaient dans le silence, parce qu'elles sont sur le même lieu. Et du coup, petit à petit, en parlant, elles se mettent à se dire « Ok, il y a des moyens de se défendre. » Et du coup, on gagne de la force au travers de projets comme ça, au travers de projets autogérés et collectifs, si on parle de ces trucs-là. Donc vraiment, il y a des trucs à faire de ouf de ce côté-là. Si vous êtes chaudes, on y va.
Très bien, un truc là-dessus. Parce que nous, on a un peu le même problème à Nantes. On est une maison du peuple assez masculine, faut dire, même si on accueille beaucoup de femmes seules, beaucoup de familles et d'enfants. Le noyau militant est très masculin. Et je tenais à dire aux filles qui écoutent, n'hésitez pas à venir à la maison, on n'est pas méchants. Les copains, on parle assez masculinement, on n'a pas eu de problème d'agression, mais on a eu des problèmes de drague lourde et tout ça. Mais n'hésitez pas les filles, les gars, il faut les recadrer. Et moins il y aura de filles, plus ils seront comme ça, et plus il y aura de filles, moins ils seront comme ça. Voilà.
Je suis d'accord sur il faut les recadrer. Nous, à la Maison du Peuple de Toulouse, le message est très clair. Copine, il y en a un qui te fait chier, même si c'est un habitant, même si c'est quelqu'un qui est légitime, tu lui colles une patate et on te soutient. Vraiment, on te soutient.
Moi, ce que je trouvais extraordinaire, comment on a géré des problèmes de masculinité, de solidarité masculine, d'harcèlement, c'est que les enfants qui étaient présents dans le lieu... Ils ont compris, ils ont appris tout ça. On a dû leur expliquer, on a dû prendre du temps. Et j'ai trouvé incroyable, en fait, ils comprenaient plus vite que des gens de 30 ans, en fait. Je ne sais pas si le monde est en fait en train de changer, s'il y a une nouvelle génération. Mais il y avait des enfants de 14 ans qui comprenaient ce que c'est voilà, la misogynie, le sexisme. Et ils ont compris le concept de solidarité masculine. Moi, j'ai trouvé ça excellent de voir toute une bande de jeunes au sein de leur groupe comprendre les rapports de domination qu'ils avaient au sein de leur propre groupe.
Parce que ça, je ne sais pas vous commencer pour ça. Nous, on a la chance d'avoir justement suffisamment mis en place de convivialité pour qu'il y ait des familles qui viennent. Genre vraiment, dans les vacances, on a une dizaine de gosses entre 4 et 17 ans qui se baladent dans les couloirs, qui font leur life. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais moi, je trouve que ça met une ambiance de ouf. Et en plus, ça permet vachement de cadrer. Par exemple, il y a eu un soir, on a fait un after manif à la Maison du Peuple. Et les gens, ils ont débarqué, ils étaient déjà bourrés. Donc là, on a été au taquet en mode « Ok, service d'ordre, machin ». Et en fait, le fait qu'il y ait des gosses, ça permet de dire « Ben, tranquille, en fait, sur l'alcool, oui, on peut picoler, oui, on peut boire, mais en fait, on est obligé de poser des limites parce qu'il y a des enfants autour. Et du coup, quel exemple on veut leur montrer ?» Et c'est pas en termes de vraiment de boire de l'alcool, en fait, c'est en termes de comportement. Une fois que l'alcoolémie est là, moi, je juge pas le fait de boire de l'alcool, y a pas de souci là-dessus. Et ça, je trouve que c'est une chance vraiment, du coup, en termes de richesse, d'avoir des enfants qui s'approprient ces trucs-là. Pour eux, c'est incroyable. Et pour les familles aussi, notamment pour les parents seuls, d'avoir un espace où les gamins vont être pris en charge par d'autres personnes dans des situations familiales un petit peu complexes. Du coup, il va y avoir d'autres exemples, d'autres références adultes, d'autres expérimentations. Du coup, du dialogue qui va se mettre en place par les pères, mais dans un autre cadre que le collège où c'est la pression, où c'est l'angoisse. Je sais pas vous, si vous avez des enfants.
Nous, on a quelques enfants qui passent de militants. Mais après, nous, on a pas mal d'enfants, vu qu'on a... Nous, on a un étage de notre maison réservé à l'accueil des familles et des femmes seules. Du coup, on a pas mal d'enfants qui traînent dans la maison. Ça, on fait de l'aide administrative pour aider les personnes sans papier à la rue à retrouver une maison et tout ça. Du coup, il y a en permanence des enfants à la maison. Après, le problème se pose quand même, parce que quand les enfants sont là, c'est la journée. Tu vois ? Et les problèmes, c'est le soir, souvent. Après 19h, c'est pas pareil. C'est juste le soir qu'on est entre nous, il y a toujours. On est une cinquantaine de mecs, donc forcément, il y a des tensions. Voilà.
Donc vous avez entendu les meufs, les maisons du peuple ont besoin de vous.
Ouais.
Les maisons du peuple ont vraiment besoin de vous. Et les nanas qui sont dans les maisons du peuple ont besoin de vous, vraiment. Même si c'est juste pour boire le café.
On met fin au débat ?
Ouais,
ok, super, bien. Merci à vous. Donc je vais en profiter pour remettre un peu dans le contexte parce que la caméra est braquée sur nous, vous savez pas ce qui se passe là-bas. Donc les gens sont en atelier de travail, donc ils sont en groupe de 10 et ils sont vraiment en train de travailler sur les thématiques. Et du coup, nous on choisit de ne pas les filmer parce qu'on veut pas les déranger. Ils veulent travailler voilà, ensemble. Et plus tard, on pourra vous restituer des synthèses de sur quoi ils ont travaillé ou ils pourront même venir témoigner eux-mêmes. Et du coup, pendant les temps d'atelier, on en profite pour prendre des gens à partie et voir ce qu'ils ont à nous dire. Et du coup, les prochaines personnes qu'on va inviter, c'est Plein le dos. Donc voilà, c'est un bouquin qui a pris des photos des gilets. Et du coup, on va sûrement faire une interstice. Et voilà, ça va se lancer directement après. Voilà. Du coup, à tout de suite avec Plein le dos. Et voilà. Et c'est de là, il retourne à la facilitation de débat.
On retourne à l'orga, ouais.
On aura peut-être une thématique facilitation plus tard pendant l'ADA.
Je m'appelle Alexandre, je suis Toulousain depuis 2 ans et poète depuis beaucoup plus longtemps. Donc, l'épopée des Gilets jaunes m'a inspiré plusieurs poèmes. Je m'en contenterai aujourd'hui de 2. Le premier intitulé « Ô pays bien-aimé » où je parle de l'ensemble de notre pays. Et le deuxième, « Magnifique et le gueux » plus relatif, davantage serré sur les seuls gilets jaunes. En exergue du premier poème, « Ô pays bien-aimé », je citerai ce vers de Yanis Litsos, poète grec. Ce petit peuple lutte sans épée ni balle pour que tous aient le pain, la lumière et le chant. Et pour nos amis grecs, si jamais certains tombent sur cet enregistrement, je vais le chanter. Mikros laos ke polema, vichos patia ke volia, yaulu tu kosmu to psomi, to fosketo tragudi. J'en reviens à mon poème. Malgré l'effet pervers du jeu diplomatique, malgré la cécité du monde politique, malgré les trahisons qui déforment ta voix, malgré ton amertume et tes doutes parfois, malgré la violence et sa trouble habitude, malgré ton désespoir, malgré ta solitude, malgré l'épuisement de ta vitalité, malgré les questions sur ton identité, malgré les faux semblants de la démagogie, malgré ton conformisme à l'idéologie, malgré ton sentiment de l'inutilité au risque d'y laisser ta maigre liberté, après le temps passé d'une grande souffrance, vois le jour se lever de couleur bleue de France. Malgré ce que tes mots scellent d'inexprimer, tu te libéreras, ô pays bien-aimé. J'en viens au deuxième poème. Magnifique est le gueux. Magnifique est le gueux dont le visage grave exprime la fierté, montre sa liberté, s'enchaîne sans entrave et son humanité. Magnifique est le gueux, le damné de la terre, en son honnêteté, courageux, travailleur, aussi protestataire, empreint de dignité. Magnifique est le gueux, l'exclu, le pauvre erre, en un mot le sans-dent, qui traîne son chômage et partant sa misère du fait des possédants. Magnifique est le gueux, debout dans la tourmente de la précarité, quand il prend pour compagne et même pour amante la solidarité. Magnifique est le gueux, soufflé par la grenade ainsi que le flashball, qui, dans son désespoir, chante la sérénade d'un profond ras-le-bol et qui sut défier de l'automne à l'automne des pouvoirs les excès. Magnifique est le gueux, drapé d'un gilet jaune comme un drapeau français.
Salut, salut. Alors, je suis avec Cyril du collectif Plein le dos et Floréal des éditions du Bout de la Ville qui sont basées dans un pittoresque petit village d'Ariège appelé le Mas d'Asile. Bonsoir les gars.
Bonsoir, ravi d'être là.
Bonsoir.
Vous êtes venu ce soir pour nous présenter un livre qui compile un certain nombre de dos de gilets jaunes ornés de dessins, de slogans, de poèmes, de citations. Et la première question que je vais vous poser, c'est comment, déjà, peut-être quelle est la genèse de ce collectif Plein le dos, puisque c'est le nom du livre. Donc c'est pour Cyril.
Ok. À la base, il s'agit d'un groupe de militants qui ont pris part aux premières manifs gilets jaunes. Bon, au début, avec un peu de réserve par rapport à ce qu'on en disait sur la taxe gasoil, etc. Et puis en fait, dès qu'on est arrivé sur les manifs, on a vu les gilets. On a vu les messages qui étaient inscrits sur les gilets. Donc déjà, on a eu une première surprise qui n'était pas du tout ce qui remontait par les médias, quoi, au niveau des revendications de qui étaient ces gens-là. Et donc, ces militants-là, alors qu'ils se connaissaient aussi d'avant par... Des collectifs, d'autres assos comme Thé Café pour les réfugiés ou la fête à Macron. Personne de ce groupe de militants, donc Louise, a trouvé ça génial et a dit il faudrait qu'on garde ces photos, qu'on les montre, qu'on puisse montrer ces dos de gilet et les messages. Et effectivement, pour montrer l'intelligence, la poésie, le côté artistique, tout ce qu'on trouvait magnifique pour en garder une trace. Et en fait, très vite, il y a eu une galerie qui a été montée sur Internet. Et après Louise s'est faite aider par des photographes, des professionnels, des gens qui avaient des compétences au niveau site web, etc., pour ordonner un petit peu tout cet archivage. Et donc très vite on a eu le projet politique qu'il y avait derrière, qui était qui est synthétisé dans notre un peu dans le credo du collectif, c'est pour une mémoire populaire du mouvement des Gilets jaunes, la rue contre le mépris. Le mépris qu'on voyait sur les médias mainstream, sur les chaînes d'infos continues, qui montraient que des poubelles qui cramaient, finalement des images sans intérêt qui ne permettaient pas vraiment de comprendre pourquoi les gens étaient dans la rue, qu'est-ce qu'ils y faisaient, qu'est-ce qu'ils voulaient. Et bien en fait, on pouvait simplement l'expliquer aux gens, le montrer aux gens, simplement en montrant le message personnel des gilets qui était inscrit, que chaque gilet jaune inscrivait sur leur gilet, quoi. Et donc, il y a eu cette archive populaire qui a commencé à être organisée sur Internet, classée par ville, par acte, pour garder mémoire, en fait, de ce mouvement, ce qu'était ce mouvement. Et ensuite, pour faire connaître un peu ce projet-là, Louise a eu l'idée de faire imprimer sur des A2 recto verso, sur un papier jaune, une sélection de ces gilets avec ce titre du collectif, ce nom de collectif Plein le dos. Alors malheureusement, j'ai pas de feuilles jaunes parce qu'elles sont toutes sur une table sur l'ADA off. Et on a commencé à diffuser ces feuilles jaunes en manif à prix libre, et sachant que les sous, on disait aux gens que les sous serviront à alimenter les caisses de blessés que l'on voyait au fur et à mesure des actes fleurir sur le pot commun, sur l'itchi, etc. par tous ces gilets jaunes qui avaient été mutilés par la police dans une indifférence à l'époque générale au niveau des médias mainstream, etc., et qui étaient laissés seuls dans cet état-là. Nous avons trouvé ça insupportable. Et donc, voilà, on a décidé effectivement de diffuser ces pages en soutien à ces gens-là. Et on a rencontré un succès incroyable en manif, parce que les gens étaient contents déjà de voir qu'il y avait un petit média, un petit collectif papier qui portait leur message, et d'autre part qu'on collectait pour leurs copains, leurs camarades qui effectivement étaient mutilés, sachant qu'ils se disaient on sera peut-être les prochains, quoi. Donc voilà comment l'idée a été lancée. Donc ça s'est passé dans les feuilles, on a commencé à les distribuer début mars 2019. Et voilà comment l'aventure a commencé pour plein le dos, quoi.
Merci Cyril. Plaisir. Dans l'avant-propos du bouquin, on peut lire que plus de 7000 photos ont été mises en ligne à la fin du mois d'octobre 2019, et plus de 33 000 feuilles jaunes ont été diffusées à prix libre. Ça, c'était avant l'aventure du livre que tu vas nous présenter, je pense, Floréal, puisque le collectif Plein le dos est venu contacter les éditions du bout de la ville. Tu vas peut-être nous expliquer comment ça s'est fait.
J'ai envie de revenir un tout petit peu en arrière. Allez. On est nous, on est dans un petit village d'Ariège. Et donc, de fait, dans notre village, très vite, il y a une assemblée de gilets jaunes qui se monte. C'est un mouvement qui est moins urbain que plein de mouvements sociaux, on le sait bien, quoi. Et donc, on est pris dans ces assemblées-là. Il y a des ronds-points aussi dans le coin, à Foix, à Pamiers. Il y a beaucoup d'agitation dans le coin. Donc, ça discute, ça bloque les péages, ça bloque tout ça. Donc, nous, on en est. Il y a les procès aussi... Qui commence déjà à tomber il y a un an, Et puis la petite assemblée n'existe plus dans le village où on est, tout ça est un peu rassemblé à la fois. Enfin bref, l'histoire continue. On tombe sur ces feuilles jaunes, on dit c'est exactement ça qu'il faut faire en termes d'édition. Il faut qu'on fasse un livre qui contribue à ce mouvement. C'est le mouvement le plus important depuis. Combien de temps ? C'est pas 68 au moins. Enfin, c'est un vrai raz-de-marée, ce truc-là. C'est la première vague, sans doute, qui donnera des petits et tout ça. On le sait bien. Enfin, en tout cas, ça, c'est notre point de vue. Du coup, on se dit, un peu à l'image de ce qu'on fait, on existe depuis 2012 comme maison d'édition. Et notre propos, c'est de dire qu'on fait de la critique sociale, mais elle est située, c'est les premiers concernés qui prennent la parole et qui pensent leurs conditions, l'expliquent, etc. Donc là, on se dit, sur les gilets jaunes, c'est hors de question qu'on fasse un livre d'analyse de ce mouvement. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on donne que tout le monde arrive à prendre la parole. Et donc on se dit, c'est ça. Bien sûr, c'est ça. Ce collectif a compris ce qu'il fallait faire en termes d'édition. Bien sûr qu'il faut faire ça. Donc on les contacte. On se dit, prolongeons ça avec un bouquin. Et donc on contacte Louise. Nous, on se connaît pas encore. Hein, on s'est rencontrés aujourd'hui, mais. Parce que c'est quand même tout un collectif. Il y a du monde derrière.
Il y a du monde dans le collectif. Et puis chez toi aussi, vous êtes quatre permanents.
Moi, je ne suis pas du tout tout seul à faire ça, bien entendu. On est un collectif. C'est un travail très collectif qu'on a fait, là. On a passé beaucoup de temps à se poser la question de comment faire un bouquin là-dessus sans faire un espèce de mouvement, de bouquin qui enterrerait le mouvement, quelque part, qu'on ferait un mouvement pour la mémoire, mais... on sait aussi le travail mémoriel, comment il enterre des choses. Ça, c'est un truc de fou. Donc, c'était hors de question de faire ça. Donc, on s'est dit, on venait de rencontrer des éditeurs américains, et qui comprenaient rien au mouvement des Gilets jaunes. On s'est dit, on va faire un bouquin bilingue. Donc, on va tout traduire tous les gilets. On va faire une sélection des gilets avec le collectif Plein le dos. Et on va les traduire et on va faire des notes. Pas pour expliquer le mouvement, mais pour expliquer ce qu'il y avait sur les gilets. Je donne deux exemples. Le Club Dorothée nous avait pas préparé à toute cette merde. Je pense qu'un Américain ne peut pas comprendre ça. Donc c'est il faut expliquer qu'est-ce que c'est le Club Dorothée. la solution Soleil Vert, la solution finale pour les vieux. Soleil Vert, c'est un film de science-fiction, un excellent film de science-fiction américain des années 70. On explique qu'est-ce que c'est ce film. L'ISF, est-ce que des Américains peuvent comprendre ce qu'est l'ISF ? Non, il faut expliquer l'embrouille. Rends l'ISF, il faut expliquer. Donc on a fait tout ce boulot de notes, mais on a aussi expliqué Vivre libre ou mourir. C'est à la fois une chanson phare du plus grand groupe de punk français, et en même temps c'est aussi un slogan de la Révolution française, de la Commune, de la résistance en Guadeloupe contre Napoléon qui veut recoloniser l'île, etc. Enfin bon, bref, c'est à chaque fois où Black Vioc, qui a écrit au dos, Black Vioc, c'est une blague sur Vioc et sur Black Bloc, on fait une note sur Black Bloc pour expliquer d'où viennent les Black Blocs, du début des années 80 en Allemagne, technique d'autodéfense dans les manifs. Pareil, dans les dos, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des références à toutes les citations et les insultes de Macron qui traitent tout le monde de fainéant, etc. Enfin, de cynique, etc. Donc, on a remis toutes les citations pour qu'on se souvienne. Du coup, voilà. Donc, on a fait ce boulot-là avec le collectif plein le dos et tout. Et en se disant, avec donc, il y a cette dimension tout de suite internationale. Et puis, il y a un autre truc aussi. C'est qu'on s'est dit, oh là, ça va être. Ce qui va se passer dans les années à venir, c'est que, à la fois, les médias feront tout pour enterrer ce qui s'est passé. Donc, il faut faire vivre ce mouvement. Et en même temps, on sait aussi que les chercheurs vont s'emparer de ça pour tenir un discours sur le mouvement et gloser sans fin sur qu'est-ce que c'est ce mouvement, etc. Et vont s'emparer de ces photos, de ces slogans et tout, et vont en faire un espèce de truc. Voilà, pour ossifier ce mouvement, pour le figer, quoi.
Ouais, donc, l'intellectualiser, fallait, vraiment.
Voilà. Et donc, il y avait une espèce de course. Il fallait faire ce livre avant que des chercheurs commencent à raconter n'importe quoi et mettre des gros mots là-dessus, gloser à l'infini sur ce mouvement. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un livre pour le mouvement. Et évidemment, on a poursuivi la logique de plein le dos, évidemment.
Avec les bénéfices.
Tous les bénéfices de ce bouquin sont versés à des caisses. Et là, je reprends ce que tu disais tout à l'heure. Ça, c'est super important. Au jour d'aujourd'hui, il y a 20 000 euros qui ont été donnés soit à des caisses de blessés, soit à des caisses de prisonniers. Il se trouve que, par ailleurs, donc, les éditions du Bout de la Ville participent à un journal qui existe depuis 2001, qui est un journal qui est fait par des prisonniers, des proches de prisonniers qui s'appelle L'Envolé, dont le principal objet, L'Envolé, c'est des prisonniers qui s'expriment directement, qui pensent leurs conditions, qui critiquent les conditions dans lesquelles ils sont.
Ouais.
Pour nous, c'était évident que ce livre aussi devait servir à alimenter des caisses pour des prisonniers qui, pour prendre un exemple, on n'a pas encore le verdict du procès de Narbonne. Narbonne, donc, le péage a brûlé, etc. Il y a 31 personnes qui sont inculpées, qui ont été jugées. On n'a pas encore le rendu. C'est dans les jours qui viennent qu'on aura le rendu. Mais le procureur a déjà demandé 5 ans. Donc voilà, la question se pose aussi, voilà. Pareil pour les gens qui ont brûlé la préfecture du Puy-en-Velay. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes pour nous, qu'il y ait aussi des sous qui soient versés pour les prisonniers.
Nous, et avant même d'aller en prison, en fait, pour assurer la défense, voilà, des personnes qui sont inculpées.
Exactement.
Pour des raisons absolument infondées, voilà, finalement.
Et donc nous, effectivement, on participe à ça. On n'assure absolument pas tout ce soutien. C'est vraiment le collectif, c'est le projet du collectif plein le dos de s'occuper de ça. Mais voilà, évidemment, nous, on participe et on partage ce point de vue comme on l'a fait sur plein de nos livres. Hein. C'est pas la première fois qu'on fait ça. Hein. C'est à chaque fois, au moins les trois quarts de nos livres participent un peu d'une manière ou d'une autre à soutenir un peu des luttes, des mouvements, etc. Enfin, on est un peu dans cette histoire-là. Voilà.
Et tu disais tout à l'heure, en aparté, que ce livre peut se retrouver dans toutes les librairies de France.
Absolument. Bah,
c'est assez exceptionnel quand même.
Bien sûr, on est un éditeur qui donc a un excellent diffuseur qui s'appelle Obo Diffusion. J'ai une petite pub pour le diffuseur parce que franchement...
Il assure, vous êtes au States apparemment, à l'étranger en tout cas.
Il assure et c'est pas que pour nous, c'est-à-dire que si on va aller voir tous les éditeurs qui met en librairie, c'est vraiment excellent. Enfin, il y a vraiment tout pour se faire une culture critique aujourd'hui. Et donc, il fait les tournées. Et donc, dans tous les libraires, on se bouquin. Voilà, du coup, on a de la presse, évidemment. Enfin, bon, de toute façon, c'est normal. Enfin, c'est un bouquin. Voilà. Et donc, qui se diffuse aussi ailleurs. On en a vu des exemplaires se promener un peu partout, quoi. Au Sénégal, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, machin. Ça commence. Il est sorti il y a un mois, mais voilà.
À 4000 tirages ?
Le tirage est à 4000. Voilà.
Muy bien. Et alors, est-ce qu'on en parle beaucoup là, mais on ne l'a pas vu, on ne l'a pas montré aux gens qui sont là en train de mater le direct. Est-ce que vous auriez envie, vous, de chercher comme ça un des gilets qui vous a tapé dans l'œil, votre chouchou celui
il faut
dont
deux minutes,
le message vous transcende le plus. Voilà, prenez deux minutes. Moi, ce que j'ai repéré direct dans les notes de l'éditeur, qui ont été super bien pensées par les éditions du Bout de la Ville, c'est que la première note, déjà, elle fait fort avec cette information. La France est le premier producteur mondial de ronds-points. Donc, c'est assez logique que les Gilets jaunes aient choisi de squatter ces endroits-là, au final.
65 000 ronds-points.
C'est ouf.
Non, mais ouais. C'est une folie. Hein.
Ouais. Après, j'ai beaucoup aimé, moi, toutes les références à la culture pop. On a du Mad Max 2. On a le Dalton aussi. Quand est-ce qu'on mange Macron ?
J'aime bien.
Macron mange t'es mort.
Ouais.
Les gitans avec le...
La double page gitan, elle est pas mal, la double page gitan, j'avoue.
Qu'est-ce qu'on a ? On a des citations littéraires aussi assez chiadées. Un Dostoïevski qui nous dit que si vouloir vivre est un crime, alors nous sommes tous coupables. On a des détournements aussi de références, comme Sous les gilets, la rage, ou Rage against Macron. Cyril, t'as trouvé ton illustre préféré ?
Ouais. En fait, il y en a plusieurs. Bon. Alors, bah, ouais, le grand classique, quoi. Un peu l'union fait la force contre les forces de l'argent qui nous dépècent un par un dans notre coin. Donc, les Gilets jaunes, c'est aussi ça. C'est une sortie massive de la population, un réveil populaire. Donc, moi, j'aime bien typiquement ces gilets, cette prise de conscience, cette démonstration par les Gilets jaunes. J'aime bien aussi. Tout ce qui les messages, et aussi c'est un de mes moteurs perso, c'est les enfants, nos enfants. On fait partie de cette génération qui, depuis longtemps, c'était pas arrivé. On a peur pour l'avenir de nos enfants. On s'aperçoit que pour eux, ça va être plus dur que pour nous, et ça va être de mal en pis. Et c'est aussi, moi, en discutant avec mes copains gilets jaunes, un truc qui ressort très souvent, pour pas dire tout le temps, mais pourquoi vous êtes dans la rue ? Pourquoi vous bravez cette répression ? Et la réponse, souvent, toujours, pour moi, c'est mais parce que il y a nos gamins, quoi. On n'a pas envie que nos gamins vivent ce qu'on est en train de vivre, cette répression, cette oppression par les forces de l'argent, puissance 10, parce qu'on voit où ça va nous mener, et c'est maintenant qu'il faut se rebeller pour pas qu'eux aient à le subir plus tard, plus fort. C'est notre responsabilité aussi vis-à-vis de nos gamins, quoi. Bon, il y en aurait d'autres. Il faudrait trouver un beau dessin, quoi.
En fait, il y en a 365, rien que
voilà.
Ça. Et
8000 sur le site.
Ouais. Il y a un peu d'histoire, des éclaircissements aussi sur la répression judiciaire, les armes utilisées par les forces de l'ordre et l'impact que ça peut avoir sur des gens. Ça a tué des gens. Et... cette phrase magnifique de Rosa Luxembourg aussi, « Celui qui ne bouge pas ne sent pas ses chaînes ». Ça, c'est pas mal à transmettre à nos enfants aussi.
J'aime bien celle-là. Là. Le réchauffement climatique, c'est moi. Je la trouve assez marrante dans une ambiance où on nous culpabilise comme des malades. Là. Bon, ça serait de notre faute, en fait, si la planète est complètement en train de partir en vrille. Et je trouve ça pas mal de dire ça. Enfin, j'ai trouvé ça très drôle. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'humour. Et ça fait plaisir.
Des petites notes, des petits jeux de mots et beaucoup de poésie. Et ça change de la propagande de la part des grandes chaînes, des BFM, etc., qui veulent faire passer les gilets jaunes pour des vandales, des personnes hyper violentes, alors que ça vient des tripes et il y a une force de vie incroyable dans ce mouvement. Et c'est ça que montre le livre, j'ai l'impression.
Exactement. Et puis, tu vois, pour reprendre le message, ce gilet que tu as choisi. il y a aussi plein de double sens, quoi. C'est le réchauffement climatique, c'est moi, mais aussi ça chauffe socialement.
Donc fournissez-vous ce livre de toute urgence, il est vraiment très très beau. Et il est à 20 euros, c'est ça ?
Il est à 20 euros.
Et donc les bénéfices sont reversés à des caisses d'aide de gilets jaunes qui sont en procédure judiciaire, notamment.
Et alors, si c'est intéressant de dire, mais ça c'est à toi peut-être de le dire, mais donc il y a l'Assemblée des blessés. Hein, c'est donc l'Assemblée des blessés existe depuis presque 10 ans, hein, je crois bien. Hein. Enfin, c'est un vieux truc, hein, 5-6 ans peut-être. Bon, je sais pas, bref. Qui est composé de tous les proches de gens qui sont soit morts de la police, soit qui sont fait blesser. Voilà. Et donc, c'est avec eux que vous voyez un peu toutes ces histoires-là, quoi. Des histoires de sous, ils sont super au courant. Voilà.
Ouais, bah, effectivement, pour tout ce qui est blessé, y a eu une visibilité à un moment. Maintenant, il y en a moins au niveau des blessés et aussi vis-à-vis du suivi de ces gens qui sont mutilés physiquement, mais aussi brisés psychologiquement, bien sûr. Ouais, les traumatismes, etc. C'est des vies qui sont détruites par la répression policière, parce que derrière les difficultés à se soigner, il y a aussi des pertes d'emploi, des séparations. Enfin, voilà, toute une réaction en chaîne. Qui fait que les gens sont vite isolés, il y a une espèce de spirale, et donc c'est vrai que c'est super qu'il y ait des copains via l'Assemblée qui réunissent ces gens-là, leur donnent du soutien, etc. Et du coup, pour nous, c'est aussi des aiguilleurs pour savoir qui a le plus besoin en urgence pour qu'on puisse donner ces sous qu'on collecte via le livre, via les manifs, pour les blessés. Donc oui, l'Assemblée des blessés. Effectivement, aussi donc la défense collective, puisqu'on aide les gilets jaunes tout au long de la chaîne de répression policière, judiciaire. Donc effectivement, les mutilations, la défense collective pour les frais judiciaires de défense pour les procès. L'aide, donc effectivement, le soutien aux incarcérés, parce qu'il ne faut pas oublier effectivement nos prisonniers politiques, il y a eu aussi une gilet jaunisation du mouvement social que nous aussi on a vu au niveau des manifs, quand on voyait des blouses bleues, des blouses blanches, des blouses oranges pour les cheminots, mettre eux aussi leur message sur leur gilet, comme l'ont fait les gilets jaunes. On a aussi collecté leurs photos. On a fait des numéros spéciaux soutien aux caisses de grève. Et donc, on a aussi donné un petit peu aux caisses de grève contre le projet de contre-réforme des retraites. Et dans la dernière vague de dons, là, en mars, on a donné notamment à... Des grévistes femmes, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles à Paris, pour aussi soutenir les femmes dans leur lutte et à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Donc il y a effectivement, dans le sillage des gilets jaunes, on espère qu'il y a aussi toute une société qui se réveille sur une défense des droits sociaux, etc. Et aussi cet essaimage des gilets jaunes et que l'on suit aussi avec plein le dos, quoi.
C'est touchant ce que tu dis, Cyril, en fait, parce que c'est un gros groupe hétéroclite et à la fois, chacun derrière customise son gilet. On a tous la même couleur, mais chacun met son petit message. Donc, faut pas oublier cette singularité. Faut pas oublier aussi comment sont banalisées les violences envers tous les gens qui ont été touchés, qui ont été blessés à cause des exactions policières. Et ce bouquin-là, j'ai l'impression qu'il rappelle cette petite part de singularité, cette poésie, l'élan que chacun peut apporter au mouvement. Parce que c'est pas juste un tout, c'est vraiment composé de plein de sensibilités différentes, que ce soit les cheminots, les infirmières. Ouais. Tu voulais rajouter un truc, Florian ?
Oui, je voulais rajouter un truc, deux trucs. Le premier, c'est que si jamais il y a des gens qui nous regardent, qui ont besoin en fait d'argent, parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils ont leurs amis en prison, qu'ils n'hésitent pas à contacter le collectif Plein le dos ou les éditions. Hein. Voilà, sachez que quand même, là, 20 000 euros, c'est pas rien et c'est pas fini. Voilà. Et la deuxième chose, c'est si des gens veulent aussi, dans leur rond-point, dans leur coin, prendre des feuilles jaunes, des bouquins pour les vendre, pour contribuer un peu à tout ça, qu'ils n'hésitent pas. Hein. Enfin, voilà. Ça, c'était quand même important
vous
de le rappeler.
Vous êtes sur Internet, on peut vous trouver très facilement. Vous avez acheté un nom de domaine, Plein le dos. Enfin, vous avez un site, quoi. Si je tape Plein le dos...
Ouais, pleinledos.org.
Comment ?
Tout attaché, ouais. www.pleinledos, ouais. En un seul mot, .org.
Okay.
Et de là, on trouvera plein d'infos. Et si vous êtes en manif, vous pouvez contribuer. Envoyez vos photos photo@pleinledos.org et en indiquant la ville et la date, et ils seront ajoutés à cette archive populaire.
Ouais, la collecte continue.
Voilà.
Ok. Et le bouquin apparemment dans toutes les librairies de France. Voilà. Aux éditions du bout de la ville. Un très très beau livre avec plein de messages hyper importants. Celui-là par exemple, le peuple n'obtient que ce qu'il prend. C'est Louise Michel qui l'a dit. Et merci les gars, hein. Je crois qu'on a pas mal parlé.
Merci à vous.
On est juste les représentants de collectif, hein. Il y a du monde derrière. On est juste les représentants de collectif. Hein.
Ouais, vous êtes les porte-parole, mais vous êtes derrière, bien plus nombreux que ça. En tout cas, merci pour vos témoignages. Et beau week-end, Dada.
Salut. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis sur l'ADA TV. Vous allez nous retrouver demain. Donc demain matin, on rattaque ici. Je pense qu'on va lancer le stream sûrement à 9h du matin. Alors suivez-nous pour la suite de la programmation. Demain, va falloir plus partager le stream. Va falloir le faire tourner de partout. On va être encore mieux organisé demain. Donc vraiment demain on va essayer de plus transmettre l'expérience des ateliers, on va essayer d'amener les gens pour voir comment ils ont travaillé aujourd'hui, on va aller encore plus loin et vous allez encore mieux comprendre vraiment ce que c'est l'ADA, et j'espère moi aussi. Donc voilà, je vous dis à demain et je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Ce soir au off, il y a une bonne ambiance, on va boire quelques coups avec modération. On va écouter des concerts et une chorale. Et voilà, si vous êtes sur Toulouse, rejoignez-nous à la Maison du Peuple de Toulouse. Et je vous dis à demain. Les Gilets jaunes triompheront.